chercheur oriental. J'ai repris totalement cette équipe.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs de cette semaine. Le 25 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. C'est l'occasion pour chaque peuple africain de prendre conscience du combat de tous les continents africains pour la libération, le développement et le progrès économique. 52 ans après la création de l'Union africaine, certains observateurs estiment qu'au regard des cas d'instabilité observés dans les différentes sous-régions du continent, le rôle de l'organisation dans la prévention des conflits doit être revu. Une opinion pense par contre que l'organisation doit plutôt renforcer sa politique d'aide au développement économique des États membres. Quel est votre point de vue? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocafé.net ou bien appelez-nous au 081 890 3315 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Mini Kindou est à la technique. Julie Fezabongonda et Thierry Lamégie sont à la réalisation de ces programmes coordonnés et présentés par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Nous avons en ligne Dominique Vint, qui est analyste politique, que nous recevons souvent dans cette émission pour des questions sur la gestion des conflits en Afrique. Dominique, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, Julien, et bonjour à tous vos auditeurs. Oui, je suis là.
Voilà, le 25 mai de chaque année, comme je l'ai dit tantôt, les mondes célèbrent la Journée mondiale de l'Afrique. C'est l'occasion pour chaque peuple africain de prendre conscience du combat de tous les continents africains pour la libération, les développements et les progrès économiques. Alors, 52 ans après, la création de l'Union africaine, certains observateurs estiment qu'au regard des cas d'instabilité observés dans les différentes sous-régions du continent, le rôle de l'organisation dans la prévention des conflits doit être revu. Est-ce que vous partagez cet avis, Dominique?
Écoutez, oui, je partage cet avis, mais je pense quand même que, et on le sait très très bien, c'est un peu enfoncé une porte ouverte, mais il est évident que le développement social et économique du continent africain doit passer, bien entendu, par une pacification des zones qui sont encore actuellement en conflit, ou en tout cas qui sont en instabilité ou en fragilité. Donc je pense qu'en fait, le rôle et le plan de développement qu'on pourrait imaginer pour l'Union africaine doit vraiment s'intégrer dans cette double dynamique, à savoir, bien entendu, travailler et s'engager dans la prévention des conflits et la lutte contre les conflits qui sont actuellement en cours sur le territoire et sur le continent africain, mais aussi, et je pense que c'est vraiment essentiel, l'Union africaine doit maintenant s'engager dans une véritable intégration du développement économique et social des pays membres de l'Union africaine sur le continent africain.
Aujourd'hui, c'est vrai, bon nombre d'observateurs pensent que la diplomatie préventive quant à la gestion parfois des conflits au niveau de sous-régions souffre de résultats parce que chaque pays aujourd'hui brandit sa souveraineté. En premier lieu.
Oui, non, bien entendu, oui. Il est évident que le fait de pouvoir renforcer le cadre politique qu'il faudrait créer au niveau de l'Union africaine ne peut absolument pas signifier que les États membres de l'Union africaine perdraient de leur autonomie. Il y a évidemment des secteurs très sensibles qui doivent rester au niveau de l'autonomie des États membres, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait cette intégration, ce cadre politique de l'Union africaine qui doit permettre, d'une part, pouvoir régler les conflits qui sont actuellement en cours et éventuellement en prévenir de nouveau, mais surtout Et je pense que ce sera la seule et une des seules manières de véritablement prévenir de futurs conflits, c'est évidemment cette intégration, ce développement économique et social qui est essentiel pour l'Union africaine et pour le continent africain. Je ne pointerai que 5 défis qui sont des sources potentielles de conflits. Emploi des jeunes, l'urbanisation croissante, les fameuses industries extractives des minerais et du chisseur africain, les perturbations climatiques et bien entendu la pauvreté et l'inégalité. Si l'Union africaine, dans son cadre politique, s'engage à pouvoir, avec les outils qui sont à sa disposition, à savoir la Banque africaine de développement et aussi bien entendu nos sous-régions, les coordinations régionales, si l'Union africaine arrive à s'engager et à relever ses 5 défis, je pense qu'on aura déjà bien avancé dans la résolution et surtout la prévention de nouveaux conflits.
Voilà, alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a plusieurs pays à l'Afrique qui traversent une période électorale et on le sait très bien, les élections ont toujours été une source parmi tant d'autres des conflits. Est-ce que vous, la manière dont l'IA gère aujourd'hui ou prévient ces conflits, est-ce qu'on peut dire que c'est l'idéal?
Écoutez, je pense qu'il y a quand même une évolution au niveau de l'Union africaine à ce niveau-là, et c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a quand même pointé une véritable diplomatie africaine. Et aujourd'hui, l'Union africaine ne se repose plus sur ses grands alliés internationaux, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit les pays émergents. Aujourd'hui, l'Union africaine compris au travers de certains de ses dirigeants qu'il était aujourd'hui essentiel que elle-même, l'Union africaine elle-même, que les pays africains eux-mêmes commencent à s'intéresser et à éventuellement intervenir politiquement dans certains pays qui seraient en dérapage. On l'a vu notamment sur le cas de la RDC il n'y a pas longtemps où on a eu le président qui était de Tanzanie intervenir sur la présence des pays voisins dans le Kivu. On a vu quand même, même si la situation est loin d'être réglée sur le Burundi, où il y a eu le sommet de l'Eastern African Community il y a une semaine, on voit que là aussi, la Tanzanie et la République démocratique du Congo sont très attentifs de voir l'évolution de la situation au Burundi. Et donc, on voit quand même aujourd'hui, on l'a vu quand même ici au Sénégal, on l'a vu évidemment sur la crise, bon, qui n'est pas une véritable crise de conflit, mais qui est quand même une crise importante, la crise d'Ebola, sur les trois pays de l'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. On voit qu'il y a quand même une mobilisation de l'Union africaine qui est vraiment flagrante depuis 3-4 ans. Elle est encore évidemment insuffisante, mais je pense qu'on est là sur une nouvelle, un nouveau paradigme où l'Union africaine commence à comprendre et à intégrer le fait qu'elle est une force politique en elle-même.
Voilà, merci beaucoup. Voilà, voilà. Dominique Vert, vous intervenez depuis Guinée, hein, donc signalons-le, parce que là, bon, avec cette distance, on a peut-être des petits soucis avec votre ligne, je crois que ça va aller. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à ce débat autour de la célébration d'anniversaire de l'Union africaine. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, il y a de points de vue qui sont partagés et certains observateurs estiment qu'au regard des cas d'instabilité observés dans les différentes sous-régions du continent, le rôle de l'organisation dans la prévention des conflits doit être revu. Et une opinion pense par contre que l'organisation doit plutôt renforcer sa politique d'aide au développement économique des États membres. Alors quel est votre point de vue? On vient de suivre notre invité Dominique Vart depuis Guinée. Nous attendons également vos réactions. Maître Likonda, vous êtes à Kinshasa. Nous allons vous accorder la parole dans un instant.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, hors de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Voilà, nous avons, après avoir écouté notre invité, nous prenons Maître Likonda qui est à Kinshasa. Maître Likonda, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour beaucoup et joyeux anniversaire à tous les Africains.
Voilà, merci. À vous entend, Maître Likonda. Quel est votre point de vue par rapport à ces deux tendances qui se sont dégagées? Certains observateurs ont estimé que, au regard des cas d'instabilité observés, on a perdu également Likonda. Non, Likonda est là. Voilà, je disais tantôt qu'au regard des cas d'instabilité observés les différentes sous-régions du continent, le rôle de l'organisation dans la prévention des conflits doit être revu. Mais une opinion pense par contre que l'organisation doit plutôt renforcer sa politique d'aide au développement économique des États membres. Quel est votre point de vue, Maître Likonda?
Je suis d'accord pour les deux opinions, mais je voudrais, pour commencer, apporter une précieux détail. Que les 53 ans soient divisés entre l'Union africaine et l'Organisation de l'Unité africaine, parce que les deux sont parfaitement différentes. L'Organisation de l'Unité africaine a été créée avec un objectif de permettre les indépendances des pays africains. Et à ce niveau-là, l'Afrique a atteint cet objectif parce que le continent est décolonisé depuis bien des années. Mais au fil des années, on a remarqué que les conflits armés continuaient à déchirer le continent. Et au sein de cette organisation, il était question de collaborer, de coopérer pour mettre fin à la guerre après la domination de l'Occident, que la paix règne dans le continent. Mais cet objectif a été difficile à atteindre. C'est pourquoi, vers 1979, il y a eu le plan d'action de Lagos où les États avaient résolu de mettre en place une communauté économique africaine, laquelle communauté devrait également de donner naissance à des organisations régionales pouvant permettre l'intégration économique. Parce qu'à travers la coopération politique, on n'a pas réussi à réunir les Africains. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les années 80 étaient réservées pour la création des communautés telles que la CIAC, la SADC et tant d'autres. Eh bien, c'est au début des années 90 qu'on a mis en place l'Union africaine. C'est une organisation continentale d'intégration pour permettre à d'autres petites organisations communautaires à bien coordonner cette intégration-là. Que les Africains vivent ensemble. Et donc, l'idée était de créer des grands ensembles au sein du continent africain. Mais déjà avec cette intégration, se pose aussi un problème. Un artiste et un musicien, Manu Dibango, avait dit que les Africains se supportent, que l'Africain aime l'Afrique. Mais nous apprenons du jour au lendemain que tel citoyen congolais est chassé, expulsé. Il y a des expulsions barbares, des expulsions bêtes. Or, on est dans le même continent, on ne se supporte pas. Et même au sein des organisations telles que la CIAC, la SADC, l'intégration pose toujours des problèmes. Pour mettre en place une zone de libre-échange, ça pose toujours des problèmes. Il est difficile de circuler dans le continent tout en étant africain. Eh bien, par rapport à l'Union africaine, bon, la question n'était pas vraiment de militer pour mettre fin aux conflits armés, parce que c'est une question qui a été déjà débattue depuis bien des années. On pouvait tout simplement continuer poursuivre la lutte. Mais beaucoup plus, on s'était focalisé sur la...
Maître Likonda, au regard des différents conflits que nous observons actuellement dans les différentes sous-régions du continent, est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité de pouvoir revoir, disons, cette diplomatie préventive, parce qu'elle lui a peut-être prévenir les conflits en amont?
Mais vous êtes allé bon. on peut tout simplement revoir la politique de résolution des conflits, parce que ici et là, ça ne marche pas. Même lorsqu'il y a un coup d'État, vous allez remarquer que les États africains, les présidents africains vont se réunir pour peut-être déplorer l'acte. On est contre le coup d'État, on est contre ceci. Mais 6 mois plus tard, les mêmes présidents africains doivent revenir pour dire, bon, nous reconnaissons le nouveau régime, mais qui est seulement celui qui a réussi le coup d'État puisse s'organiser pour les élections. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment une évolution.
Oui, mais il y a cet aspect de souveraineté des États.
Oui, chaque État veut être souverain. Mais aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'au début des années 90, on avait évoqué la question de la création des États-Unis d'Afrique. Chose que Kwame Nkrumah avait déjà proposée depuis des années. Mais ça ne marchera pas, parce que les Africains ne se supportent pas. L'Africain n'aime pas l'Afrique.
Merci beaucoup, Maître Likonda.
Nous évoquons aujourd'hui, en tout cas, c'est encore, il faut encore observer des siècles pour arriver à réunir.
Merci beaucoup, Maître Likonda. Voilà. On va réagir un peu avec notre invité qui a été coupé tout à l'heure. Voilà, Dominique Berthe, vous êtes avec nous. Voilà, Dominique, vous êtes avec nous? Voilà, dommage, on a des petits soucis également avec la ligne de notre invité Dominique Verte. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à notre invité. Bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, quel est votre point de vue, Félicien?
Moi, je pense que les Occidentaux n'ont aucun intérêt et voir l'Afrique se développer, car se tenir est le devoir de l'Occident. Et si l'Afrique se développe, donc ils ne sauront plus où aller puiser toutes les ressources qu'ils ont besoin pour leur survie, pour leur développement. Et puis, l'Union africaine ne peut rien réussir à cause de la mosaïque des systèmes politiques que nous avons, parce que vous avez ici des gens qui s'efforcent à faire avoir un État démocratique, et de l'autre côté, vous verrez des gens qui préfèrent maintenir la dictature, et cela est voulu par les Occidentaux, qui fabriquent des rois télé, des dictateurs en Afrique, et qui pour voir tous leurs besoins qui les soutiennent pour que l'Afrique ne puisse pas aller de l'avant. Même des conflits dont nous parlons, quand vous parlez de conflits infinis en Afrique, que nous observons en Afrique, ces conflits sont alimentés par les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui donnent des armes à tel pour qu'ils puissent créer des désordres et puissent déranger les pouvoirs établis. Et de l'autre côté, ils donnent des armes à celui-là et il va faire tout ça. Et ça ne peut pas se terminer. Parce que vous constatez que quand il y a un Africain qui cherche à sortir du lot de cette médiocrité pour chercher l'intérêt de l'Afrique, le développement de l'Afrique, les Occidentaux font tout pour le bloquer. Vous connaissez le cas de Thomas Sankara, comment on a mis fin à sa vie parce que
oui, Félicien,
vous voulez justement l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance totale.
Oui, Félicien, Félicien,
vous connaissez les problèmes de Moses et Laurent Désiré Kabila. Et personne ne l'ignore dans notre pays. Gaddafi est mort à cause de quoi? C'est parce qu'il a voulu vraiment l'indépendance totale de l'Afrique, l'indépendance politique et économique. De ça, les Blancs ne peuvent pas l'accepter. Et Mandela se promet d'aller en prison. On l'a fait sortir quand on a vu qu'il n'avait plus de force pour mettre en pratique ses idées. Donc, les Occidentaux, il faudra qu'il y ait en Afrique des hommes et des femmes qui prennent conscience, qui disent le pouvoir pour le pouvoir, ça ne sert à rien. Et moi, je dois sortir mon pays du lot. Et s'ils sont 10, 15, 20, parce qu'ils ne pourront pas les tuer tous en une fois, là, les Africains peuvent vraiment décider de créer une dynamique
qui doit sauver l'Afrique. Mais tant qu'il y aura un dans un coin et les autres sont des valets des Occidentaux, donc celui-là, on va les décapiter et c'est fini et les idées ne vont pas servir. Donc moi, je pense qu'il faut une prise de conscience collective et c'est ce qui est difficile à réaliser. Donc moi, je ne crois pas que nous pouvons sortir de nous-mêmes et il faut commencer à préparer les générations qui doivent dire non aux idéaux des Occidentaux, non à ce que les Occidentaux nous imposent, non à l'esclavage et au néocolonialisme, l'esclavage qui continue. Donc nous sommes encore sous la coupe des Occidentaux.
Merci beaucoup Félicien. On va dire à vous, Dominique, vous êtes avec nous, vous êtes à nouveau en ligne.
Voilà. Oui, monsieur.
Voilà, Dominique, vous venez de suivre Maître Likonda et Félicien. Dans l'ensemble, on se rend compte que, en fait, l'intégration aujourd'hui, l'intégration sous-régionale ou régionale de peuples africains, ça sera difficile, c'est une équation difficile à résoudre.
Oui, certainement. D'abord, il faut savoir qu'au niveau des migrations, les mouvements des populations sont beaucoup plus importants entre pays africains qu'entre le continent africain et le continent européen. Même si on a les drames que nous connaissons dans la mer Méditerranée avec des milliers de personnes qui tentent de rejoindre les côtes européennes, mais il faut savoir que la plus grande majorité des migrants se déplacent à l'intérieur du continent africain. Alors, comment pouvoir régler la question, évidemment, de ces réfugiés, de ces flots de réfugiés qui quittent leur zone d'origine pour essayer de trouver un avenir un peu meilleur. Et je pense que, de nouveau, surtout au niveau, bien entendu, d'un développement économique et social moderne et progressiste que l'Union africaine peut encadrer dans le cadre de son rôle de structure continentale sur le continent africain. Et je vous disais tout à l'heure, les défis qui pour moi sont devant le continent africain. Il faut absolument que tous les États, et bien entendu encadrés par les sous-régions et encadrés par l'Union africaine, créent ce contexte favorable pour répondre à ces défis. C'est l'emploi des jeunes, l'urbanisation grandissante, bien entendu le contrôle des industries extractives, les perturbations climatiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une des raisons des mouvements de population et de réfugiés qui essayent de fuir leur zone d'origine sont de plus en plus liés au changement climatique. Et bien entendu, la pauvreté et l'inégalité. On sait que le continent africain, et c'est le Fonds monétaire international qui le dit, dans les années qui viennent, sera le continent qui aura sans doute le taux de croissance le plus important. Mais le problème n'est pas seulement, évidemment, d'avoir un bon taux de croissance. La vraie question, c'est comment redistribuer les richesses pour que l'ensemble des populations puisse évidemment en bénéficier.
Voilà, on va écouter Maître Sonville qui est à Lubumbashi. Maître Sonville, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R., bonjour à Monsieur Dominique et bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Okapi.
Vous avez la parole Maître Sonville.
Allô?
Maître Sonville, vous avez la parole.
Je dis ceci. En tout cas, il faudrait qu'on revoie en tout cas plusieurs choses en fait concernant l'Union africaine, surtout dans la prévention des conflits. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que toute l'Afrique est embrasée par des conflits. Toute l'Afrique, vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de développement politique si le temps qu'il n'y a pas la paix? À titre illustratif, je vais prendre le cas de notre pays. Il y a des conflits partout. On ne sait pas investir. Les gens ne savent pas vaquer les occupations comme il le faut. Mais aujourd'hui, si nous essayons un peu de voir clairement la chose, on peut faire une comparaison entre les pays anglophones et les pays francophones. Vous voyez vrai que la stabilité se trouve mieux du côté des pays anglophones que du côté des pays qui ont été colonisés par les Français. Pourquoi ça? parce que je dirais que l'Afrique a dépassé autant d'étapes. Il y a eu l'étape de la révolution, l'étape de l'indépendance, là où on avait des présidents qui voulaient l'indépendance à tout prix, qui étaient des nationalistes, tels que Lumumba, tels que le Kassavou, le Kwame Nkrumah, le Sédar Senghor et consorts. Cette étape est passée. Alors, les Occidentaux ne voulaient pas que ce nationaliste-là puisse avoir le pouvoir. Même au cas actuel, les cas de Félix Tshisekedi, les cas des autres Félix Bon, les cas de M. Laurent de Kabila, qui sont passés qui étaient nationalistes. Alors, nous, l'Afrique est brisée d'énormes difficultés par rapport aux intérêts des Occidentaux. Les Africains doivent aimer d'abord eux-mêmes leur continent, et tout le développement de l'Afrique ne peut jamais provenir de l'extérieur. Le développement de l'Afrique doit d'abord commencer à l'intérieur. Si aujourd'hui je déplore la mort de Kadhafi, quand bien même il fut dictateur, mais cette dictature-là, était la bombe du côté de Libyens. Les Libyens ont assisté à des grèves par les étudiants libyens, puisqu'il n'y a pas eu d'assez de place dans les parkings et tout ça. Un Libyen chômeur était payé. Voilà maintenant ce qui est devenu la Libye d'aujourd'hui. C'est déplorable le sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nul ne peut effacer la page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire, le sujet, est un monde sans âme. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'histoire que nous essayons un peu de monter au créneau. Tout ce que je peux demander aux Africains, voyez par exemple les gens comme Mugabe, il est là, il a combattu, mais dans quel état se trouve sa population? Aujourd'hui, s'il y a des expulsions partout, par-ci, par-là, c'est parce que les autres pays ne savent pas se prendre en charge. Aujourd'hui, nous assistons à des expulsions des Congolais, du côté des Congo-Brazza, des autres Africains, du côté de l'Afrique du Sud. Mais alors, les recrutements sont régionaux. À quoi bon que ça puisse exister? Parce que nous savons la SADC qui demande à ce qu'il y ait libre circulation dans des pays appartenant à cette organisation. Mais comment est-ce qu'ils s'en foutent eux-mêmes? Vous ne verrez jamais un pays qui a adhéré à la communauté européenne, dont ses habitants sont battus, sont expulsés dans un autre pays, membre de cette communauté.
Oui, maître Sondra, quel est le commentaire que vous avez par rapport à la diplomatie préventive, en tout cas initiée par l'Union africaine, pour résoudre des cas de conflits ou prévenir des conflits dans certains États membres?
Il y a beaucoup de complaisance dans cette histoire, monsieur Gilles. Nous sommes en train de vivre les cas du Burundi. Où est cette diplomatie préventive? Les Burundais sont en train de mourir. Mais quelle est la tâche? Qu'est-ce que cette Union africaine a fait par rapport à la population burundaise qui est en train de mourir? Moi, j'estime que, monsieur Gilles, tout d'abord les Africains eux-mêmes, ils sont divisés. Vous comprenez une chose? Nous vivons aussi du côté du Congo, là où on est en train de s'amener petit à petit vers la révision constitutionnelle. Mais tout ça devait être pris en charge par l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui devait fixer des modalités d'accession au pouvoir.
Mais mettre son ville, l'Union africaine ne peut pas s'ingérer dans des questions d'ordre constitutionnel d'un État. N'a pas ce pouvoir.
Non, l'Union africaine peut interpeller le président par rapport aux acquis de cette association.
Là, il faudrait interroger la charte de l'Union africaine. Je crois qu'à ce niveau, sur le point de gestion, il n'est pas. On brandit quand même la souveraineté des États.
Oui, quand même il y a la souveraineté de l'État. Mais comment est-ce que cette souveraineté de l'État est brandie toujours quand il y a l'Union africaine? Mais du côté des Occidentaux, il y a des Occidentaux qui s'ingèrent dans la politique interne de nos pays. Mais pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de nos pays, nos présidents, nos chefs d'État, doivent comprendre qu'à un moment donné, ils ont besoin aussi des conseils pour améliorer les conditions de vie de leur population. Vous comprenez un peu de ce sujet. C'est-à-dire que l'Union africaine quand même tous les États sont autonomes, sont souverains, l'Union africaine doit avoir quand même un œil regardant sur la gestion d'autres pays quand la population est mise en danger. Quand il y a beaucoup de déplacements, quand il y a beaucoup de réfugiés, quand on crée des camps de réfugiés par-ci, par-là, ça ternit l'image de l'Afrique. Ça ternit même l'image de l'Union africaine qui est incapable des fois d'apporter des bonnes solutions à ces
Merci beaucoup, Maître Sauville. On va un peu voir le regard qu'a Dominique par rapport à votre intervention. Dominique, vous êtes avec nous.
Oui, je suis bien entendu.
Voilà, quelle est la réaction que vous avez par rapport à l'intervention de tout à l'heure de Maître Sauville?
Écoutez, je suis évidemment un peu d'accord avec lui.
Maintenant, je pense que nous pouvons aussi être créatifs. Et c'est vrai que actuellement, l'Union africaine ne peut pas intervenir sur les agissements qui pourraient être considérés comme anticonstitutionnels dans les États membres de l'Union africaine. Mais il y a quand même, je pense, surtout, comme fin, même si on est bien d'accord qu'elle n'est pas unanime et qu'elle n'est pas horizontale, mais il y a quand même la culture africaine, je crois, qui doit pouvoir, en tout cas subsaharienne, qui doit pouvoir jouer dans le règlement des conflits. Et le dialogue reste évidemment un des axes clés de la résolution des conflits. Et je pense que l'Union africaine pourrait quand même un peu plus intervenir, notamment sur un conflit qui aujourd'hui sont toujours en cours sur le continent africain. C'est évidemment une question de volonté politique. Je pense quand même aussi que dans ce cadre-là, si on fait une évolution du nombre de conflits sur le territoire africain depuis maintenant une vingtaine d'années, entre 89 et 2009, nous avions 271 conflits qui étaient en cours. Depuis 2009, on voit quand même qu'il y a eu pas mal de résolutions de conflits. Alors, le territoire africain n'est pas encore pacifié à 100%, mais on voit quand même qu'il y a une évolution et qu'aujourd'hui, les conflits sont plutôt en diminution, plutôt en augmentation. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais je pense que surtout les causes et les origines des conflits ont fortement changé depuis 89. Et donc aujourd'hui, on a deux, trois grandes raisons finalement qui sous-tendent les conflits que l'on connaît actuellement. Je le répète, je pense que tout le monde.
Voilà, désolé, on a encore des petits soucis avec la ligne de Dominique Vint, vous comprenez, c'est vraiment, on est vraiment en distance avec Dominique, il intervient depuis Guinée, et là il est vraiment en province, nous avons fait un effort pour l'avoir, je crois qu'on va encore relancer pour qu'il nous donne quelques raisons, en tout cas, c'est ce que disait, les causes majeures, les trois causes qui font qu'aujourd'hui, qu'il y ait des conflits en Afrique et qui sont parfois difficiles à gérer au niveau de l'Union africaine. Je crois qu'il y a des conflits en cours. Il a fait des statistiques depuis 1989 jusqu'en 2009, 20 ans. Après, il y a eu en somme 271 conflits en cours. Et bien voilà, avant qu'elle puisse être coupée, donc on se posait d'ailleurs la question, ben alors qu'en est-il avec des questions de conflits latents, comment l'Union africaine compte gérer ce genre de conflits, et surtout que plusieurs pays africains traversent une période électorale qui, deux fois, et souvent aussi source des conflits. Merci beaucoup, Dominique Vert. On va peut-être vous récupérer d'un moment à l'autre. Clovis, vous êtes en Bujumaï. Bonjour, Clovis.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les amis de la radio Okapi.
Vous avez la parole, Clovis.
Oui, merci bien de la thématique du jour qui parle de l'Union africaine 52 ans. Après, je crois que, comment, qu'il y a de sérieux problèmes qui se posent à ce niveau et surtout avec des relations entre les pays. Aujourd'hui, je me rappelle, lors de l'élection du président de l'Union africaine actuelle, Robert Mugabe, il y a eu certaines contestations entre, soit c'est la France qui se lève, qui dit non, Mugabe ne peut pas être président, soit des gens des États-Unis d'Amérique. Donc, vous trouvez qu'il y a tout d'abord des contestations au niveau international, ce qui pose aussi problème quand il y a des relations bilatérales. Alors, je trouve à ce moment-là, il faut la prise de conscience tout d'abord collective des Africains et entre-temps, il faut voir les relations qui sont entre les pays africains et les pays étrangers. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple des pays francophones et les pays anglophones, vous trouverez qu'il y a vraiment des différences. Ici, c'est la France qui donne ses lois. Ici, ce sont les États-Unis d'Amérique qui édictent ses lois. Ici, c'est la Grande-Bretagne. Vous trouvez tout d'abord qu'il y a des divergences à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, quand on trouve tout d'abord qu'il y a un président qui est, par exemple, sous la domination des États d'Amérique, des États-Unis d'Amérique, et qui trouve que non, il y a certains règlements de compte au niveau de l'Union africaine et qui doit répondre tout d'abord au niveau des États-Unis, il doit tout d'abord laisser ce que l'Union africaine est en train de dire pour satisfaire tout d'abord les États-Unis. Je crois qu'il y a tout d'abord au niveau là l'implication des pays étrangers et c'est que l'Union africaine doit être autonome. Quand elle est autonome, Et on sait aussi qu'il y a un problème qui va se poser, c'est la souveraineté des États, qui est brandie presque partout. Quand on veut intervenir, ce sont des États. À vos magies, je crois que ce serait difficile pour résoudre les conflits qui sont presque partout dans les pays africains, avec l'implication de certains pays occidentaux et aussi certaines grandes puissances dans le monde. Ce serait vraiment pratiquement difficile s'il n'y a pas la prise de conscience et si tout qu'on est en train de voir, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut que l'Afrique soit indépendante et qu'on veut l'éliminer déjà. Voyez le cas de Kadhafi. Voyez le cas de plusieurs dirigeants africains, le cas de notre ex-président Laurent Désiré qui a été tué. Donc vous trouvez que quand on veut rendre l'Afrique indépendante, on va tuer directement les dirigeants.
Oui, Clovis, nous vous gardons encore en ligne le temps, peut-être comme on a des petits soucis avec la ligne de notre invité, le temps peut-être de revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Dominique, vous êtes avec nous.
D'accord.
Voilà, alors vous parlez tout à l'heure de conflits en cours. Vous avez fait part de statistiques depuis 1989 et 2009.
Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, je pense que les causes des conflits qui sont en cours, qui seraient potentiellement, éventuellement en développement, ont quand même fortement changé depuis une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais il faut absolument en tenir compte et surtout en prendre conscience, c'est évidemment la question de la pression environnementale. Et donc on le verra peut-être à la conférence de Paris en décembre, qui doit refaire le point sur les changements climatiques et sur les réponses que la communauté internationale doit apporter à ces changements climatiques. Mais les pressions environnementales sont vraiment devenues une cause importante des conflits sur le territoire africain. La deuxième cause, c'est évidemment les inégalités. Et là, il est intéressant, et votre auditeur le disait, de voir que, par exemple, les fameuses mutations politiques de fin de régime autoritaire ont engendré un certain nombre de conflits. Alors, c'est évidemment paradoxal, parce que les doutes pour des régimes autoritaire n'est vraiment pas à l'ordre du jour en 2015, mais c'est vrai que si on prend le cas de la Libye, on voit bien que depuis la destitution et même la mort du président Kadhafi, et bien c'est le chaos complet dans ce pays, et ce chaos dans la Libye, évidemment, a des répercussions sur certains pays voisins et donc certains pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre des régimes autoritaires évidemment au pouvoir, mais ça veut dire que l'Union africaine doit pouvoir mettre en place des mécanismes d'accompagnement de ces États fragiles qui sortent d'un régime autoritaire dans une dynamique démocratique où ils n'ont pas encore aujourd'hui la légitimité, l'autorité, voire l'expérience de pouvoir gérer justement, par exemple, des conflits intercommunautaires qui pourraient surgir suite à la destitution du régime autoritaire. Et puis, le troisième, quand même, et ça c'est aussi assez intéressant, la troisième raison, c'est évidemment des mécanismes qui sont indirects par rapport aux conflits en eux-mêmes, mais c'est tout ce qui touche à la piraterie et au crime organisé. Et il faut savoir que le trafic de la drogue, que ce soit sur l'Afrique de l'Est ou sur l'Afrique de l'Ouest, engendre bien entendu des conflits et des instabilités qui sont majeures. Et il y a un chiffre assez intéressant, c'est que la valeur marchande de la cocaïne, qui est évidemment exportée vers les pays occidentaux, est dans certains cas bien supérieure au budget de sécurité sociale des pays africains.
Mmh.
Ce qui veut dire que là aussi, c'est une lutte conjointe du continent et donc de l'Union africaine qui peut vraiment intervenir pour lutter contre ces trafics en tout genre, que ce soit les trafics d'armes, que ce soit les trafics de drogue, qui aujourd'hui évidemment ensanglantent et déstabilisent les États du continent africain qui sont en tout cas touchés par ces trafics-là. Et là, je pense que c'est une réponse politique qui doit amener, évidemment, une réponse judiciaire, politique, mais continentale. On ne peut pas dire que ce sont les pays qui sont en première ligne, qui sont tout seuls responsables et qui doivent tout seuls lutter contre ces trafics qui sont évidemment
épouvantable.
Alors, je crois que c'est déséquilibre. Il y a un auditeur qui a évoqué les déséquilibres, disons, du développement constaté en Afrique. Il y a les pays anglophones qui sont très, très, très avancés sur le plan développement. Mais par contre, on sent un certain ralentissement ou encore un retard dans des projets de développement au niveau de pays francophones. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, les Africains ne se supportent pas. Est-ce que vous avez un regard par rapport à cette intervention?
Oui, il faudrait sans doute un peu affiner les choses. Mais c'est vrai qu'à première vue, on voit en effet les pays anglophones, ou en tout cas les anciens pays de l'ancienne colonie britannique, qui seraient en meilleure forme économique que les pays de l'ancienne colonie française, lusophone ou belge. Ce n'est sans doute pas faux, mais je n'en ferai pas quand même un clivage aussi important. Parce que on voit qu'il y a quand même dans les pays de l'ex-colonie française, il y a des perspectives de croissance et de développement qui sont tout à fait intéressantes. Et si on prend ne plus que le cas du Sénégal, on voit quand même que le Sénégal est un pays dans l'ex-colonie française et donc un pays francophone sur le continent africain qui a des perspectives vraiment intéressantes. Je pense que la République démocratique du Congo aussi a vraiment des perspectives très intéressantes pour les années qui viennent. Et on voit quand même que tout le travail qui a été mené sur la rénovation des infrastructures va porter des fruits, bien entendu, pas immédiatement, mais dans les années qui viennent. Et donc, je serai un peu plus, prudent par rapport à ce qui se passe entre les pays anglophones et les pays francophones. Si on voit, par exemple, le Nigeria, c'est une ancienne colonie anglophone. On voit bien que c'est un des pays les plus populaires du continent africain. C'est un des pays qui a le produit interne brut le plus élevé. Mais il y a une corruption terrible dans ce pays. Et on voit bien que le développement n'est quand même pas tout à fait au rendez-vous, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Uganda, que ce soit en Éthiopie, voire même au Kenya.
Voilà, comme l'a dit un auditeur qui nous a, un intervenant qui nous a écrit, les Michomboto Aman de Bujumbura dit ceci, nous allons célébrer quoi exactement? C'est la corruption, la guerre, la mauvaise gouvernance. Fallait dire aux confrères d'arrêter d'accuser les Occidentaux de freiner le développement de l'Afrique parce que nous sommes responsables de ce sous-développement car nous manquons l'amour de ces continents. Si on aimait l'Afrique, nous sommes capables de terminer tous nos problèmes, mais chaque fois nous attendons toujours les solutions, disons notamment, nous cherchons des solutions vers l'Occident. Voilà, je vais terminer par dire que l'UIA a une autre organisation parce qu'elle n'est pas à mesure de résoudre, donc il faut qu'on change l'UIA parce qu'elle n'arrive pas à résoudre même un petit problème régional. Patrick de Kinshasa, c'est bien bon d'organiser des manifestations pour célébrer cette soi-disant journée, mais faudrait-il comprendre de quelle manière les Africains en général et les Congolais en particulier appréhendent les choses 52 ans après sa création, elle est incapable même de maintenir la paix dans au moins 15% du continent. Voilà, Clovis, vous êtes en Bujumbura. Clovis, vous parlez tout à l'heure, on vous a juste interrompu pour revenir à notre invité. Voilà, vous avez la parole pour poursuivre, Clovis. Clovis, vous êtes avec nous?
Au niveau des rébellions, vous allez vous rendre compte que ces rébellions sont financées par le même pays occidentaux et entre-temps, on dit que l'Union africaine doit aider à quand même participer à l'Afrique. C'est pratiquement difficile. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut essayer tout d'abord une politique comme c'est le cas, par exemple, avec l'Union européenne. On trouve qu'il y a tout d'abord une monnaie. On peut tout d'abord, au niveau économique, c'est ça qui est tout d'abord une monnaie et à ce qui est tout d'abord une politique pour toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, s'il y a des rébellions, s'il y a des conflits au niveau de pays, et les mêmes conflits-là sont financés par les soi-disant colonisateurs, je crois qu'il n'y aura pas qu'un des causes et nous allons toujours assister à des corruptions, nous allons assister toujours à des histoires dans cette Afrique qui ne va pas tenter de changer, surtout qu'il y a des richesses presque dans tous les pays d'Afrique et ce sont ces richesses qui profitent aux colonisateurs. Comment est-ce que vous allez vouloir à ce que l'Union africaine soit tout d'abord indépendante, soit autonome, à ce qu'elle puisse participer à toute l'Afrique? c'est pratiquement une
petite voilà, merci.
Pour une
merci
conscience collective de tous les Africains, et c'était tout d'abord à aimer son continent, et ne pas être au départ prêtre, pourquoi, puisque on peut être président, et en même temps on est prêtre, on ne peut pas vraiment faire à ce
voilà, merci beaucoup, Clovis,
soit vraiment en paix.
Vous l'avez évoqué, la conscience collective, comme vos prédécesseurs, on va prendre Dieu merci, qui a été Manono. Dieu merci, bonjour.
Bonjour, Radio Campus.
Vous avez la parole, Dieu merci.
Oui, merci beaucoup. Moi, la question que je me pose tous les jours, c'est de savoir si vraiment l'Union africaine existe. Bon, je ne refuse pas que c'est le vrai cette journée, 52 ans après, mais le problème, c'est de savoir plus. Comme nous sommes libérales ici, est-ce qu'il y a même les gens qui connaissent qu'il y a même l'Union africaine? Mais quand vous posez la question même à un petit enfant de notre milieu ici, il voudrait qu'il connaisse au moins l'ONU, ne connaît même pas l'Union africaine. Pourquoi? Parce que c'est presque zéro. Même quand il y a des rébellions, des guerres, même dans le pays africain, il n'y a aucune intervention. Voilà pourquoi nous voulons demander plus aux responsables de cette structure de prendre...
Voilà, oui, Dieu merci, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, et je crois que nous suivons tous également l'actualité. Aujourd'hui, les conflits en RCA, en République centrafricaine, je crois que nous avons tous senti l'implication de l'Union africaine avec une force d'intervention de l'Union africaine de l'autre côté. Et en RDC aujourd'hui, c'est vrai, à l'Est, pour travailler sur la pacification, nous avons quelques pays africains qui composent également la force d'intervention de RDC. Donc je crois que nous ne pouvons pas être un peu... Bon, en fait, ne pas avoir cette information, sinon ça serait biaiser un peu les choses. C'est ça la vérité, l'Union africaine, comme l'a dit notre invité, c'est cette dernière décennie, on a senti quand même une implication pour arriver à développer les États membres.
Oui, il faut voir, c'est 52 ans après, mais vous pouvez nous parler d'une décennie. C'est après combien d'États que l'Union africaine a commencé à montrer ses effets aux gens. Moi, je vous dis, quand vous posez la question à un enfant des systèmes des humanités, pour parler en profondeur de l'Union africaine, c'est tout un problème, monsieur le journaliste. Mais quand vous parlez de l'ONU, tout ça montre que nous avons plus la tendance à l'Occident. Voilà où les gens se posent des questions. Où est notre indépendance? C'est pourquoi, moi, je vous ai dit, il faut demander aux responsables de la structure d'oublier plus la dépendance. Pour un petit problème, il faut toujours faire appel à l'étranger pour venir terminer le problème. C'est sur le plan, même si le plan politique, c'est toujours les chefs de l'État, des États africains, qui sont premiers à se rendre à ces étrangers. C'est là où ils doivent chercher leurs stratégies, c'est là où ils doivent chercher leurs idées, c'est là où ils doivent se ressourcer presque en tout, ces journalistes. Même si le plan politique, quand vous essayez de voir les libre-échange et le protectionnisme, c'est le protectionnisme qui domine plus au libre-échange. Pourquoi? Parce que c'est juste un principe commercial plus utilisé par l'Europe. Voilà pourquoi il faut toujours chercher l'indépendance partout. Chaque année, vous allez trouver dans certains pays de l'Occident, il y a des pays qui n'ont aucun minerai, qui n'ont jamais eu une balance économique négative. Mais nous avons presque tout. Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser avec moi cette question, monsieur le journaliste? C'est quelque part ça, nous voulons plus demander aux responsables des États africains de prendre des stratégies sur place en Afrique, parce que nous sommes déjà indépendants. Nous ne pouvons pas continuer à être dépendants de l'Occident. C'est aussi ça, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Dieu merci. Jirès, vous êtes à Bandundouville. Jirès, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Vous avez la parole, Jirès.
Oui. L'Union africaine est en train de célébrer le 1er anniversaire. Nous voulons dire ici que le bilan de l'Union africaine est largement négatif. Ici, bilan est négatif parce que les Africains ont très peu de choses en commun. Parmi les choses que les Africains ont en commun, c'est l'Afrique elle-même. Alors, ce que les responsables de l'Union africaine doivent faire, c'est de mettre en place des mécanismes et beaucoup de choses qui mettraient encore beaucoup plus en commun les Africains. Et nous pourrons observer dans les années qui suivent pendant cette renversée.
Merci beaucoup, Jirès. On revient à vous, Dominique Bart, vous êtes avec nous. Voilà, Dominique, vous êtes avec nous. Voilà, on a des petits soucis encore avec la ligne de Dominique. Chaco Omeonga de Kinshasa, de Kisangani, pardon, dit ceci: comme l'ancienne OIA avait milité notamment en faveur de la décolonisation du continent, l'UIA doit plutôt encourager et renforcer la coopération entre les États africains en vue de lutter contre les néocolonialismes. Aussi, la plupart des États africains ne jouissent que de l'indépendance juridique et non de l'indépendance matérielle liée à la capacité de faire faire et d'interdire de faire. L'UIA devrait aussi, à mon avis, constituer un centre où devraient s'harmoniser les efforts des États vers des fins communes, notamment celles liées à la pacification du continent, mais hélas. Jean-Robert Kazadi Mbangu de Moineditou, nous conscientisons, disons, nous conscientiser, c'est bien, car c'est une perception plus ou moins claire des phénomènes qui nous renseignent sur notre propre existence, mais ces gens qui aiment chaque fois fêter même des événements inutiles devraient, avant de parler de l'économie, aider d'abord les Africains à instaurer la paix dans toutes les régions, que l'Afrique cesse des hostilités. Après la paix, on doit maintenant lutter contre les obstacles de toutes sortes. Franck Mondéroy de Goma, pour votre information, les conflits nationaux ne finiront jamais suite à la répartition inégale des ressources minières, forestières, vrai ou faux? Ça, c'est la question qui nous est posée. Et je crois que notre invité pourrait répondre également à cela. Nous poursuivons avec des internautes. Apollinaire Novak, Mundete de Kinshasa. Je soutiens l'idée de revoir le rôle de l'organisation dans la prévention des conflits, car je constate que les États membres de l'UIA ne se disent pas la vérité en face. Ici, récemment, les chefs d'État de l'Afrique et de l'Ouest se sont mis d'accord sur la non-délimitation des mandats pour les présidents des États. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Comment promouvoir la libération et le développement avec des initiatives pareilles? Innocent Arma Kondoli de Kinshasa. Certes, l'Afrique est indépendante sur le plan politique, mais du point de vue économique, elle vit toujours sous la dépendance des pays occidentaux. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Voilà, nous revenons à vous, Dominique Vert, vous êtes avec nous en ligne. Vous parlez des conflits en cours, mais il y a une question, une inquiétude qui est avancée par un auditeur. Et qu'en est-il de conflits aujourd'hui latents? Est-ce que la politique pour arriver à prévenir ce genre de conflits utilisés par l'UIA, est-ce que ça peut être efficace? Ou quel peut être le mécanisme efficace pour réellement prévenir ces conflits latents?
Merci beaucoup. Il y a évidemment deux maîtrises qui existent dans la résolution des conflits. Le premier, c'est bien entendu les forces de maintien de la paix. Et on voit quand même que sur le continent africain aujourd'hui, et à l'égide, sous l'égide de l'initiative de l'Union africaine, il y a par exemple en Somalie des contingents de troupes africaines et potentiellement de troupes africaines qui sont notamment donné par le Burundi, qui sont notamment donnés par la RDC, et donc et par le Rwanda aussi, on l'a vu sur le Darfour. Donc il y a ces mécanismes qui sont relativement nouveaux, qu'il faut encore évidemment perfectionner, mais c'est vrai qu'il y a un moment où l'utilisation de la force avec des troupes de maintien de la paix peut s'avérer tout à fait utile pour résoudre certains conflits. Et puis le deuxième mécanisme, bien entendu, c'est le mécanisme diplomatique et politique, où là, il y a la possibilité de pouvoir actionner des sanctions contre certains pays qui seraient à l'origine des conflits, soit à l'intérieur de leur pays même, dans des conflits internes, soit évidemment dans des conflits avec d'autres pays, en général, ce sont évidemment les pays voisins du pays concerné. Et donc ces deux mécanismes sont aujourd'hui actionnés par l'Union africaine. Sans doute faut-il encore faire plus. Moi, je pense, par rapport à ce que certains de vos auditeurs ont dit, à savoir le fait qu'il y a encore une mainmise de l'Occident sur
éventuellement le maintien de certains conflits, le maintien de certains États, et de chefs d'État qui ne seraient pas dans les normes traditionnelles de la démocratie. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à un nouveau partenariat entre l'Union africaine et, par exemple, l'Union européenne, puisqu'on sait que l'Union européenne, au travers de son instrument qui est le Fonds européen de développement, qui n'est pas le seul, mais qui est le principal et le plus important en termes budgétaires, moi, je pense qu'il faudrait revoir pour les prochains accords qui vont devoir être signés entre l'Union européenne et les pays de l'Union africaine, il faudrait absolument qu'on intègre les structures régionales dans le prochain accord. Et vous savez que les accords de Cotonou vont se terminer en 2020 et qu'il va falloir, d'ici 5 ans, réécrire un nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou en tout cas les pays membres de l'Union africaine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'accord est essentiellement bilatéral entre l'Union européenne et les pays membres de l'Union africaine. Ce serait intéressant de pouvoir ouvrir ce Fonds européen de développement aux structures régionales et même à la structure continentale qui est l'Union africaine elle-même.
Merci beaucoup Dominique Vert d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Nous nous excusons auprès de Maître Abdiya, voilà les temps, les salonnés, donc on ne pouvait pas accorder la parole à tout le monde, ce n'est qu'une partie de mise. Merci à Monique Indou qui a assuré la mise en onde de ce programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la réalisation de Julie Feza, Bungunda et Pierrot et la Mégie. Et cette émission a été supervisée par Léonard Moulamba. On se rendez-vous avec vous demain.